Bonjour. Bon, on va commencer parce que la journée va être longue. Donc après les grands succès, après les envolées d'hier après-midi, d'hier soir de Loïc Vacant et le film de Patrick Jean, donc on ouvre la deuxième journée de notre festival autour, comme on l'avait fait l'année dernière, autour d'une journée d'études qui continuera d'ailleurs demain matin. Donc aujourd'hui, on ne va pas du tout introduire puisqu'on va commencer directement. Donc aujourd'hui, simplement, ce matin, pour la première demi-journée, on essaye de faire en fait le programme qu'a proposé Loïc Vacant hier, c'est-à-dire de relier politique pénale finalement et politique sociale. Et effectivement, aujourd'hui, enfin en tout cas pour la première demi-journée, on va essayer de comprendre précisément comment se met en œuvre aujourd'hui les nouvelles formes de pénalisation de l'action sociale, pour dire les choses très, très, très rapidement. Donc, autour de trois interventions, de Vincent Dubois, qui est professeur de sciences politiques à l'université... Non, à l'IEP de Strasbourg. L'université, c'est pareil, ouais. Qui a une double... qui est là pour nous parler de la... des politiques sociales et du traitement de la misère, pour dire les choses un peu largement, qui est par ailleurs spécialiste aussi des politiques culturelles. Et vous avez peut-être vu, il a fait paraître un livre qui n'a rien à voir avec ce qui est là, qui est autour des mondes de l'harmonie. Hein, donc il y a cette double casquette, mais là il vient ici pour nous parler de ces questions autour de la vie au guichet. Il avait fait une enquête sur les caisses d'allocation familiale et aujourd'hui il travaille plus précisément aussi sur les inspecteurs des allocations familiales. Enfin, il nous parlera de tout ça. Ensuite, on écoutera, on change un tout petit peu le programme, on intervertit, on écoutera Olivier Pacro, qui est étudiant en M1 en sociologie à l'université de Poitiers et qui lui fait une enquête sur la mission locale d'insertion de Poitiers et qui du coup nous donnera les résultats, les premiers résultats de son enquête. Et puis Romuald Baudin, qui est maître de conférence en sociologie aussi, mais à l'université de Poitiers, et qui lui a fait une thèse sur les travailleurs sociaux, et qui donc parlera de ça notamment, enfin en tout cas des principaux acteurs du travail social. Voilà, donc l'idée c'est de laisser 20 minutes, donc je pense qu'on fait peut-être les trois à la suite, si vous en êtes d'accord. Vous gardez vos questions pour quand on aura pour après le débat. Et l'idée, c'est quand même de laisser le débat. Donc on aura d'essayer de garder au moins, on est un peu en retard, mais de garder au moins 20 minutes pour le débat. Donc merci de garder, de respecter le temps imparti. Vincent.
Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce beau festival. Le programme est tout à fait intéressant. Donc, je suis vraiment content de pouvoir présenter quelques-uns des éléments de mes travaux à partir du titre dont je ne me souviens plus exactement comment il a été décidé. Je crois que c'est vous qui l'aviez formulé. Donc je vais essayer de m'y conformer. Administrer la misère. Bon, je ne vais pas reprendre... Oui, je parle. D'accord. D'accord. Est-ce que ça va mieux comme ça ? Je ne vais pas reprendre le travail auquel Laurent a fait allusion. Je vais vous expliquer un petit peu la façon dont je vais procéder. Bon, pour me conformer au titre qui m'a été donné, je vais essayer de partir des pratiques administratives et d'essayer de réfléchir avec vous à la manière dont des pratiques administratives deviennent des enjeux politiques dans le domaine de la protection sociale, des politiques sociales et de l'emploi. Comment ces pratiques deviennent des enjeux politiques, c'est-à-dire à la fois comment elles sont traitées politiquement dans le débat public et dans le débat politique, mais aussi comment elles en viennent à occuper une place, une fonction, un rôle, une importance inédite dans la conduite pratique et dans les orientations des politiques publiques dans le domaine social et de l'emploi. Ce que je vais faire, je vais l'aborder à partir d'un cas particulier sur lequel j'ai travaillé, celui du contrôle des assistés sociaux. Hein, j'emploierai ce terme, non pas évidemment avec la connotation négative qu'il peut avoir dans le discours ordinaire, mais en me référant implicitement à la définition des pauvres selon Georg Simmel, hein, qui définit justement les pauvres non pas par leurs conditions objectives, mais par le fait qu'ils soient intégrés dans une relation d'assistance et donc définis socialement comme tels à partir du moment où ils sont effectivement assistés ou en tout cas peuvent prétendre à l'assistance de la société. J'ai fait en fait deux enquêtes qui pour l'instant n'ont quasiment pas fait l'objet de publication sauf quelques articles épars et un article assez récemment paru dans les actes de la recherche en sciences sociales dans le dossier consacré à l'interrogatoire. Deux enquêtes donc, l'une sur le contrôle dans les caisses d'allocation familiale à partir essentiellement d'une analyse du contrôle à domicile des bénéficiaires du RMI et de l'allocation parentale de parents isolés. Je m'éloigne systématiquement du micro, c'est ça ? Non, il faut que je me rapproche. Et puis l'autre à partir d'une enquête sur le contrôle des chômeurs. Ce que je voudrais essayer de montrer, c'est que le contrôle est un cas particulier, certes, mais qui est un révélateur, un bon révélateur des transformations plus générales de l'État social et plus généralement des manières de traiter les fractions précarisées des classes populaires, transformations générales qui sont bien connues autour des processus d'individualisation et de responsabilisation, à tous les sens du terme, des assistés sociaux. Alors, je voudrais d'abord rappeler bien évidemment que le contrôle en tant que tel n'est pas du tout une invention récente, c'est une pratique qui est aussi ancienne que les systèmes d'assistance sociale eux-mêmes. Bon, pour en donner une référence, je dirais, littéraro-militante, lisez les pages que George Orwell consacre dans Le Quai de Wigan à l'examen auquel il est soumis lorsqu'il demande une aide en tant que chômeur. Hein, donc, à cette époque, c'était effectivement très, très, très présent. Regardez un petit peu l'histoire du chômage et l'histoire du traitement du chômage, où dès les premières caisses de secours syndicales à la fin du 19e et au début du 20e siècle, hein, on met en place des procédures visant à établir si ceux qui demandent une aide en tant que chômeur sont véritablement des chômeurs. Si ce ne sont pas en fait des fainéants, des alcooliques qui veulent abuser de la générosité des caisses syndicales, etc. etc. Donc, c'est pas nouveau. J'ai pas le temps ici de refaire un panorama historique des pratiques de contrôle. Ce que je voudrais en revanche souligner, c'est que le contrôle occupe aujourd'hui une place inédite dans la conduite des politiques sociales et d'emploi et est devenu à la fois une politique en tant que telle, spécifiée comme telle, la formalisation progressive d'une politique de contrôle et qui est en même temps révélatrice d'une orientation politique qui, elle, est, si ce n'est totalement inédite, en tout cas partiellement nouvelle. Donc, pour comprendre comment cette question est devenue centrale, il faut aussi revenir sur le processus par lequel la question de la fraude aux prestations sociales et aux prestations chômage est devenue à la fois un objet de débat public, mais aussi un objet de préoccupation institutionnelle. Là encore, les rodomontades politiques et les discussions un peu démagogiques, type café du commerce sur les gens qui abusent du système, les faux chômeurs, etc., sont extrêmement anciennes. Il y a des initiatives institutionnelles qui sont également relativement anciennes et qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais on peut tout de même assez précisément dater une espèce d'inflation à la fois de discours, de formalisation de dispositifs, d'investissements institutionnels, en France, grosso modo, dans la seconde moitié des années 90. Bon, ça commence un petit peu au début des années 90, mais vraiment le gros des initiatives et des prises de position est assez précisément indexé à cette période. Alors, ce que je voudrais dire, d'abord, c'est que Bien évidemment, mais enfin, il faut le rappeler, la montée en puissance de ce discours de la nécessaire lutte contre la fraude n'est absolument pas le reflet de ce qui serait une augmentation objective de la fraude, qui de toute façon est difficilement mesurable. Augmentation qui est en fait beaucoup plus fantasmée que mesurée, et ces investissements discursifs et institutionnels ne renvoient donc pas à une sorte de reflet de la réalité objective, mais renvoient à l'agrégation de logiques professionnelles, d'intérêts, dans des espaces assez divers. Je voudrais simplement en donner quelques exemples pour ne pas être trop long et donner quelques jalons de l'histoire récente. L'un des premiers actes publics d'officialisation du problème de la fraude, c'est 1995, l'immédiat lendemain de l'élection de Chirac à la présidence de la République. Vous vous souvenez peut-être du fameux discours de la fracture sociale et en même temps de cette promesse déjà de limitation des impôts et des prélèvements sociaux, aucune de ces deux orientations n'ont été directement suivies des faits. Et précisément, il était politiquement difficile à assumer de devoir maintenir la fiscalité et les prélèvements sociaux alors qu'il y avait eu des promesses pour les réduire. Et l'un des premiers actes symboliques du gouvernement Juppé, ça a été de dire, certes, on ne peut pas baisser les impôts, certes, on ne peut pas diminuer les prélèvements sociaux, mais on va tout faire en sorte, tout mettre en œuvre pour que ces finances publiques soient gérées avec le plus de rigueur possible, et on va s'attaquer à ce qui est potentiellement l'un des motifs de déficit et d'augmentation des dépenses, la fraude, les fraudeurs. Et donc il y a eu un premier rapport rédigé par un parlementaire qui... ça a fait beaucoup couler d'encre à cette époque, qui s'appelle toujours Charles Amédée de Courson de la Bussière. Donc, voilà. C'est facile. No comment. Mais qui a donc essayé de commencer à chiffrer l'importance de la fraude, à préconiser des solutions pour la juguler, etc., etc. Ça a été un premier élément important. Il y a une deuxième étape importante qui est les débats fin des années 90, début des années 2000 autour du PAR. Vous vous souvenez peut-être que l'une des exigences du MEDEF pour justement être plus, double guillemets, généreux en matière d'indemnisation du chômage, c'était plus d'obligations pour le chômeur et plus de contrôle. Bon, il se trouve que ça ne s'est pas fait dans un premier temps, mais ça a contribué à inscrire sur l'agenda la nécessité du contrôle. Et ensuite, en 2003, le plan de cohésion sociale avec la réforme du contrôle des chômeurs qui a également été à l'origine de toute une série d'initiatives conduisant à intensifier le contrôle. J'en ai encore un dernier exemple. 2007, c'est la création du Comité national de lutte contre la fraude sociale par le ministre du Budget, aujourd'hui ministre du Travail, Eric Woerth, etc. Donc, alors aujourd'hui, ça s'est un petit peu essoufflé parce que c'est vrai que les effets de la crise financière ont commencé à rendre de plus en plus difficile d'imputer aux chômeurs les responsabilités du chômage. Mais on peut dire que sur la période, en gros, 2003-2008, pour la période la plus récente, il y a eu plus de prises de position politiques, plus d'articles de presse, de reportages, plus d'initiatives institutionnelles que dans les deux ou trois décennies qui ont précédé. Alors, pourquoi ? Ce serait trop long de l'expliquer dans le détail, mais comme je le suggérais en commençant, parce que ça sert toute une série, pour le dire vite, d'intérêts, de positions dans des espaces différents. Ça sert évidemment des stratégies politiques de stigmatisation des profiteurs, de mise en scène du courage qu'il faut avoir pour dire tout haut ce que tout le monde sait, mais que personne n'ose dire, etc. etc. Vous connaissez la rhétorique, avec une orientation politique bien connue qui consiste à remettre en cause les politiques sociales tout en prétendant les sauver. C'est pour parce que nous sommes tous attachés au système de sécurité sociale, bien évidemment, qu'il faut juguler et punir ceux qui en abusent au détriment de ceux qui en ont vraiment besoin et à l'égard desquels nous avons un devoir de solidarité, etc., etc. Bon, là aussi, vous connaissez, on pourrait faire du ce serait assez facile de faire de l'écriture automatique de discours de ce type-là. Bon, il y a un rôle assez important des médias également, mais qui, en l'occurrence, et ça n'est pas très très étonnant quand on connaît la structure du champ médiatique en France et dans ses rapports au pouvoir politique, bon, qui n'ont pas joué un rôle d'initiative dans la scandalisation du problème de la fraude, mais qui ont largement surfé sur la vague lancée en fait par les initiatives gouvernementales, puisque c'est après les initiatives gouvernementales visant à renforcer le contrôle qu'on a vu cette inflation absolument incroyable d'articles, de dossiers, de reportages sur la France qui triche, les abus, etc., etc. Certes, dans les grands hebdomadaires les plus progressistes que sont Valeurs Actuelles, Le Point, L'Express, etc., mais pas seulement. Mais pas seulement, parce que d'une certaine manière, la question de la fraude et du contrôle, c'est un bon client pour les médias, pour le dire vite. Ça permet de jouer sur un registre un peu sensationnel. Ça permet de construire toute une petite série d'histoires sur le mode du storytelling qu'aiment bien les journalistes, en les agrégeant comme un fait de société, en même temps en produisant des chiffres et de la pseudo-expertise, en mobilisant les économistes qui sont souvent... très, très enclin à produire leur discours. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Bref, il y a une espèce, en plus, d'effet d'alignement qu'on connaît bien dans les logiques du champ médiatique, puisque M6 a fait un reportage, donc TF1 en fait un, et donc Le Point fait son dossier, etc. etc. Voilà, il y a une espèce d'effet barbapapa, comme disait Erwin Goffman, à partir de pas grand-chose, on construit quelque chose qui gonfle, mais qui est un peu inconsistant malgré tout, mais qui produit des effets. Alors, tout ça fonctionne également parce que sur un énorme amalgame, qui est, j'ai employé de façon un peu rapide le terme de fraude, dont il faudrait s'interroger sur les conditions de qualification juridique, mais en fait on met un petit peu dans le même panier ce qui relève de l'escroquerie organisée, le montage de faux dossiers assédiques par effectivement des organisations qui sont dotées d'un certain nombre de savoir-faire, de moyens pour monter des faux dossiers, etc., etc., avec tous les fantasmes que ça peut susciter, parce que bien évidemment cette fraude organisée peut exister, mais dans des proportions qui sont tout de même assez limitées. Pour la petite histoire, j'avais fait il y a quelque temps un entretien avec le monsieur lutte contre la fraude de l'UNEDIC, qui me disait d'un air entendu, vous savez, il faut vraiment qu'on s'en préoccupe. Et d'ailleurs, on est en relation étroite avec la gendarmerie parce qu'on a découvert que ces faux dossiers sont montés à la fois par la mafia bulgare et par des réseaux qui sont assez directement liés à Al-Qaïda. Donc voilà. Sérieusement, hein. Non, c'est voilà. Enfin, quand je dis sérieusement, c'est il le disait. C'est pas... Bon. Donc voilà. Alors évidemment, c'est... Il s'est moustillé tout seul de pouvoir dire des choses pareilles. Conclusion, il faut contrôler davantage les chômeurs. Bien évidemment, faites le rapport entre le chômeur qu'on convoque au service de contrôle de la recherche d'emploi et Al-Qaïda. Bon, il y a toute une série de chaînons qui sont éventuellement manquants, mais bon, en tout cas, ça produit des effets. Donc, amalgame entre ça, et puis en même temps, bon, ce qu'on peut décrire comme simplement des tactiques de survie, des fractions précarisées, des classes populaires qui... oublient de déclarer qu'ils ont travaillé 2 mois, qui tardent à déclarer que le conjoint qui était parti est revenu et qui contribue désormais à l'entretien du foyer, ce qui est quand même évidemment sans grand rapport avec ces questions de fraude au sens de l'escroquerie. Il faut dire que tout ça est... c'est bien connu, le produit d'une longue préparation qu'on pourrait qualifier d'idéologique. Du côté des discours experts, notamment d'une certaine partie des économistes, avec ce que vous connaissez sans doute très bien, les continuités du discours des trappes à inactivité. Vous savez que... cette espèce de tarte à la crème qui consiste à dire la protection sociale est responsable du chômage dans la mesure où où la protection sociale entretient une situation dans laquelle les sans-emploi ont davantage intérêt à ne pas travailler qu'à travailler, et puisque c'est bien connu, ce sont des homo economicus calculateurs, eh bien, ils font leur compte et ils se disent « non, je n'ai pas intérêt à travailler, donc je reste chez moi ». La continuité de ça, c'est de dire qu'il faut agir sur ces incitants négatifs à l'emploi que sont les mesures de protection sociale, avec non pas évidemment en rendant plus attractif l'emploi en termes de salaire, ce qui contribuerait à, par exemple, une idée comme ça à relever le niveau du salaire minimum. Non, certainement pas. Bien sûr, il faut réviser à la baisse les indemnités chômage et les allocations sociales et produire des dispositifs qui rendent le moins confortable possible. Ce sont des termes qu'on peut lire dans des rapports d'économistes. Le moins confortable possible, l'assistance sociale. Alors, bien sûr, tout ça est relayé ensuite par toute une série d'intermédiaires, notamment internationaux. Pour ne prendre que cet exemple, au niveau européen, la stratégie européenne pour l'emploi qui a été lancée à partir de 1997 et dans la méthode ouverte de coordination, je vous passe le détail technique, a été un des vecteurs de circulation de cette idée selon laquelle il faut s'engager vers un État social actif, faire de l'emploi une véritable option pour tous, etc. etc. Ce qui a deux visages, le visage je dirais positif du workfare. Il faut inciter à la mobilité, rendre possible la mobilité, aider à la formation, aider à l'insertion professionnelle, etc. Mais ce qui a également un visage coercitif, contraindre finalement à un retour à l'emploi rapide, en tout cas à une sortie du système assistentiel, y compris de façon donc en partie punitive. Je n'ai pas regardé l'heure à laquelle j'ai commencé.
Ça va, tu as encore à peu près 5 minutes.
J'ai encore à peu près 5 minutes, bon. Alors, tout ça constitue une sorte de mélange assez caractéristique d'une orientation qui n'est évidemment pas spécifiquement française, vous l'aurez compris, qui associe finalement une forme d'économisme un peu rustre à une orientation moralisatrice à peu près assumée comme telle. Il faut rappeler que les chômeurs ont des droits, mais également des devoirs, chacun se doit de contribuer à l'économie et à la vie de la société, et donc par le travail, etc. etc. dans cette espèce d'alliance qui caractérise les gouvernements récents entre néolibéralisme et néo-paternalisme, pour le dire de façon très, 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 très rapide. Alors, évidemment, tout ça n'est pas que du discours. C'est là où je reviens plus précisément sur un certain nombre de pratiques administratives, dans la mesure où tout ça s'inscrit également dans des dispositifs, dans des instruments, dans des plans, dans une politique de contrôle avec des objectifs, des cibles, une programmation, etc. etc. Alors, il y a toute une série de dispositifs techniques qui ont été mis en place, inventés. Alors, pour en donner quelques exemples, en dehors de la France, il y a des choses quand même assez étonnantes, qui sont pas complètement importées en France encore, mais on n'en est pas complètement loin. Sans vouloir moi-même tomber dans une forme de sensationnalisme, quelques exemples. Bon, il y a un certain nombre d'États aux États-Unis qui utilisent des techniques du type identification individuelle par la rétine ou numérisation des empreintes digitales pour aller chercher les bons alimentaires, les aides sociales dans le dispositif du TANF, dont vous a peut-être parlé Vacant hier. L'un des signes les plus caricaturaux de ces nouveaux dispositifs techniques de contrôle a été l'initiative avortée d'un ministre du Land de Bavière au début des années 2000 qui avait proposé sérieusement d'imposer le port du bracelet électronique aux chômeurs pour permettre à tout instant à l'administration de les localiser et pour éviter que éventuellement certains d'entre eux aillent à la pêche plutôt que à la recherche d'un emploi. Ce qui est effectivement mis en pratique aujourd'hui
aujourd'hui en Grande-Bretagne dans les administrations sociales, hein, c'est dans leur centre d'appel, ce sont des détecteurs de mensonges. C'est véridique, hein, c'est sérieux. Hein, les opérateurs appellent les bénéficiaires d'aide, commencent par des questions anodines. Nous devons vérifier un certain nombre de points avec vous. Est-ce que vous habitez toujours à telle adresse et est-ce que vous êtes bien effectivement né à telle date? Et puis, à partir du moment où il y a des questions plus sensibles, genre, est-ce que vous êtes toujours seul? Est-ce que vous n'avez jamais travaillé pendant les 2 mois qui ont suivi? Est-ce qu'il vous arrive de faire des petits travaux au noir, etc., etc. Hein, ça, y a un logiciel qui permet de mesurer les modulations de la voix, et quand modulation de la voix il y a, on dépêche sur place un inspecteur. Alors, on n'en est pas tout à fait là en France, mais il y a un certain nombre de voix, hein, qui sont déjà engagées. Je voudrais simplement donner un panorama très rapide des techniques qui sont engagées, qui sont utilisées, avec un usage croissant de l'informatique et des croisements des fichiers, hein, avec l'utilisation du NIR, hein, numéro de sécurité sociale, qui était auparavant interdit, hein, après la loi informatique et liberté qui a été autorisée relativement récemment, avec donc des outils, hein, de recoupement des données qui vont très très loin, en fait, hein, je n'ai pas le temps de développer, pour resserrer les mailles du filet, pour reprendre cette métaphore habituelle. Y a une technique classique, hein, qui est celle de l'entretien, hein, les contrôles sur place des contrôleurs des caisses de l'allocation familiale, par exemple, que j'ai étudié, les enquêtes de voisinage, les enquêtes auprès de la mairie, de la gendarmerie locale, etc., pour cerner les pratiques des assistés, y compris avec des choses qui sont plus ou moins directement inspiré de pratiques directement policières, hein, les filatures, on fait des plans pour savoir qui va chercher les enfants à l'école, etc. etc. Et puis les pratiques habituelles de convocation, hein, pour vérification de dossiers, bon, tout ça est de l'ordre de la pratique bureaucratique, tout à fait. Troisième type de technique, en fait, et qui est tout à fait importante, c'est en fait une diffusion d'une logique de contrôle, ce que la hiérarchie des administrations sociales et de l'emploi appelle la culture de contrôle, qui aurait fait défaut jusqu'à présent à ces administrations. Diffusion d'une logique de contrôle, en fait, à tous les échelons et à tous les niveaux du traitement des assistés, que ce soit dans les relations de guichet, hein, où les guichetiers sont aussi enrôlés à leur corps plus ou moins défendant dans des pratiques qui les conduit à devoir vérifier, suspecter, etc., les personnes qui viennent pour traiter leur dossier. Le traitement papier des dossiers, qui est de plus en plus orienté vers, explicitement, hein, c'est le cas par exemple dans les ACDIC, vers la recherche des petites choses qui clochent et qui permettraient de éventuellement diligenter pour le coup un contrôle et de limiter éventuellement le versement des prestations. Et puis toute une série d'autres pratiques, j'en prendrai que cet exemple parce qu'il est très très important et connu, qui ne sont pas a priori des pratiques de contrôle, mais qui le deviennent, comme le suivi mensuel des demandeurs d'emploi, qui a été lancé au nom d'un meilleur accompagnement des chômeurs dans leur démarche de recherche d'emploi et de façon à les conseiller pour un retour à l'emploi plus rapide, qui, du fait des conditions pratiques d'effectuation de ces entretiens, se transforme en fait en des pratiques de vérification et de contrôle, ce dont d'ailleurs les conseillers pour l'emploi anciennement l'ANP, aujourd'hui Pôle emploi, sont souvent à l'égard desquels ils sont souvent très très, très très critiques. Ça a été d'ailleurs l'un des mots d'ordre des mouvements sociaux avant la question de la fusion qu'a connu l'ANP en la matière. J'avais toute une série d'autres choses que je voulais dire, mais je ne vais pas trop m'apesantir. Donc je conclue. En disant simplement que, vous savez sans doute, si vous vous intéressez ou si vous êtes intéressé à l'histoire du travail social et du discours sur le travail social et de son analyse, qu'il y a toute une littérature assez florissante qui a été développée dans les années 70 en termes de contrôle social, hein, qui a été une formule longtemps utilisée de façon extrêmement extensive dans des approches critiques, y compris de manière un petit peu métaphorique, et que, de façon un peu paradoxale, je dirais, cette orientation intellectuelle a décliné au moment où, en fait, elle correspondait le plus aux pratiques directement observables. Ce n'était pas la conclusion que j'avais prévue, mais je resterai là. Merci.
Merci beaucoup, Vincent. Olivier ?
Alors pour ma part, je me suis intéressé à la manière dont les jeunes inscrits à la mission locale de Poitiers sont suivis par leurs conseillers d'insertion, c'est-à-dire en fait comment sont gérés, comment sont administrés les flux des jeunes chômeurs au sein de cet espace. Alors les observations dont je vais vous faire part proviennent d'un stage que j'ai effectué à la mission locale de Poitiers au mois de janvier. C'est embêtant ça. Dans le cadre d'un mémoire de Master 1 donc, au sein du département de sociologie sous la direction de Laurent. Et alors j'ai choisi de vous parler de l'administration d'une jeunesse entre école et travail parce que le public privilégié des missions locales est un public de jeunes de 16 à 25 ans qui est dans une situation d'entre-deux, hein, c'est-à-dire à la fois sorti du système scolaire et pas encore dans une situation d'emploi stable. Alors mon intervention va se dérouler en trois temps. Dans un premier temps, je vais vous retracer rapidement l'histoire des missions locales en m'arrêtant sur celle de Poitiers. Ensuite, un peu dans la continuité de ce que disait Vincent, je vais vous présenter le logiciel informatique qu'utilisent les conseillers pour collecter l'ensemble des informations relatives au parcours d'insertion des jeunes. Et on verra que les données collectées par les conseillers touchent à des domaines très variés de la vie des jeunes. Et enfin, je tenterai de dégager une typologie des conseillers, leurs pratiques professionnelles, toujours dans l'optique de montrer comment se jouent les modes d'administration de cette jeunesse. Donc, mon premier point, un retour historique rapide sur les missions locales.